Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, merci d'être avec nous. Nous allons, comme chaque samedi à cette heure-ci, revenir sur 7 jours d'actualité dans le monde, en Afrique singulièrement et en France, grâce au reportage de la rédaction. Nous partirons ainsi pour l'Allemagne, la Russie, la Guinée, le Mali, en passant bien sûr par Paris. Nous sommes aujourd'hui en compagnie d'un observateur de l'actualité à laquelle il donne de la profondeur, en compagnie d'Amit Bozarslan, historien, sociologue, auteur d'un livre passionnant qui s'intitule « L'antidémocratie au XXIe siècle, Iran, Russie, Turquie ». Une semaine d'actualité donc, un magazine que vous pouvez bien sûr télécharger sur le site de RFI ou votre plateforme préférée. Avant d'écouter Amit Bozarslan, partons pour le Japon et parlons sumo. Son palmarès en fait le plus grand de l'histoire du sumo. Le lutteur d'origine mongole, Akuko, qui a mis fin lundi à sa carrière à l'âge de 36 ans, se consacrera désormais à la formation des jeunes talents. En 20 années passées à arpenter les doyos, c'est-à-dire ces monticules d'argile où ont lieu les combats, il a battu quasiment tous les records de ce sport traditionnel ô combien japonais à Tokyo. Frédéric Charles.
Dans l'arène, face à son adversaire, Akuko avait la réputation d'être un fier à bras, célébrant ses victoires par des gestes de triomphe, protestant lorsqu'il lui arrivait de perdre un combat. On lui reprochait, comme aux autres lutteurs mongols, de ne pas saisir les subtilités du sumo, une pratique liée au Shinto, la religion première du Japon. Un seul record lui aura échappé, celui de la plus grande série de combats victorieux. Peut-être en raison de sa rivalité avec un autre yokozuna ou grand champion d'origine mongole, Asa Shoryu. Les Japonais auront dû attendre près de 20 ans avant que l'un d'entre eux, Kiseno Sato, atteigne en 2017 le rang suprême de yokozuna, mettant fin au monopole mongol. Akuko arrive au Japon à l'âge de 15 ans, en 2000. Il apparaît comme un gamin pâle et maigrichon, selon son autobiographie. Il est devenu entre-temps un géant de 1m92 pour 158 kilos. Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Une semaine d'actualité.
Bonjour Amit Bozarslan.
Bonjour.
Merci d'être à ce micro, je suis ravi de vous retrouver. Ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas entendu, soit dans une semaine d'actualité, soit dans Idée le dimanche. Nous allons avec vous parler de ce que vous appelez l'antidémocratie au XXIe siècle. Votre livre est publié au CNRS Éditions et compare trois régimes, l'iranien, le russe et le turc. D'abord, pourquoi ce mot antidémocratie ? C'est un nouveau concept ?
C'est un concept provisoire. Je n'ai pas trouvé d'autres concepts parce qu'on a effectivement énormément d'autres concepts. La démocratie libérale, l'autoritarisme démocratique, démocrature, etc. Aucun de ces concepts ne me permettait de définir effectivement ces régimes qui se sont formés dans les trois pays dans les années 2000 ou 2010. Ces trois régimes se considèrent comme des alternatives radicales, nationales, antilibérales et surtout viriles par rapport à la démocratie bourgeoise libérale telle qu'on peut observer dans l'Europe. Ces trois régimes se considèrent que la politique est d'abord une affaire de guerre, une guerre en interne mais aussi une guerre en externe, et ces trois régimes-là pensent que leur société ou leur nation ont une mission historique. Cette mission historique consiste à dominer le monde, mais que cette mission historique a été entravée à la suite des interventions de l'Occident mais aussi des trahisons internes, une sorte de corruption ontologique, et envisagent de restaurer leur nation dans leur pureté ontologique pour retrouver la puissance. Ces régimes-là considèrent que le temps passé est un temps également de corruption et d'humiliation et envisagent l'avenir comme le temps de revanche sur le passé. Et donc, c'est des éléments qu'on ne peut pas trouver nécessairement, par exemple, dans un régime comme le régime de Orban en Hongrie ou sous le régime de Trump aux États-Unis. Donc, je crois que là, il y a quelque chose de particulier, extrêmement particulier, et c'est pour définir cette particularité que j'ai proposé de manière provisoire une fois de plus la notion d'antidémocratie.
La particularité, une des particularités de ces régimes, c'est que ce sont des démocraties de façade.
Des démocraties des façades, à la limite, on a l'impression que les institutions démocratiques sont formellement maintenues, mais la fonction de ces institutions démocratiques, c'est de montrer qu'elles ne fonctionnent pas. Pourquoi elles ne fonctionnent pas? Parce que ces régimes-là estiment qu'il doit y avoir une fusion charnelle entre le leader et la nation. Le leader ne représente pas la nation uniquement dans le présent, mais incarne la nation au sens propre du terme, dans son passé et dans son avenir. Lorsqu'on dit « no Poutine, no Russia », cela signifie tout simplement que l'existence de la Russie en tant qu'entité historique, mais en tant qu'aussi entité projetée dans l'avenir, ne peut être incarnée que par Poutine. Là, on voit très clairement qu'effectivement, il s'agit de contourner les institutions qui ne sont pas pour autant supprimées. Les institutions sont là, mais ce sont des institutions qui sont devenues en quelque sorte une coquille vide parce que ces institutions sont considérées comme des entraves à cette fusion charnelle entre le leader et la nation.
Hamid Bozarslan, ce qui est frappant aussi quand on pense à la Russie et à la Turquie, on aurait pu pour le coup, mais c'est de côté, vous nous avez expliqué pourquoi parler de la Hongrie, c'est cette vision qu'ont ces régimes de l'Occident considérés quasiment comme décadents.
L'Occident est considéré comme ontologiquement corrompu et corrupteur. L'Occident, l'histoire de l'Occident n'est pas du tout analysée dans sa singularité, ni d'ailleurs dans une histoire coloniale, dans une histoire impérialiste. C'est comme si la mission de l'Occident était de corrompre l'humanité entière, et ces régimes-là se considèrent comme des civilisations irréductibles à l'universel et irréductibles également à la civilisation occidentale. Lorsque l'un des professeurs de sociologie russe explique qu'il y a un conflit entre les deux civilisations, la civilisation russe slave et la civilisation occidentale, et que dans la guerre des civilisations, l'une doit disparaître, cela fait rappel tout de suite à ce que Goebbels disait que la guerre la lutte des races doit se terminer par l'élimination de l'une d'entre elles, et dans les trois cas, effectivement, on a l'impression qu'effectivement il y a cette idée de anti-universel radical. La nation ne peut pas se réduire à l'universel, ne peut pas se fondre dans l'universel, ne peut pas vivre comme une nation dans le concert des nations. La nation doit s'imposer par sa supériorité, et pour ce faire, il faudrait effectivement résister à la corruption ontologique que l'Occident veut propager et, si possible, anéantir l'Occident.
Sept jours dans le monde.
Amit, partons maintenant pour l'Allemagne après les élections législatives de dimanche dernier et la victoire des sociodémocrates qui vont devoir, on le sait, bâtir une coalition pour gouverner à Berlin dimanche soir. Pascal Thibault.
Le résultat de tous les possibles, les sociodémocrates, au terme d'une remontée de 10 points dans les dernières semaines, terminent en tête. Olaf Scholz, le candidat du SPD, s'est immédiatement présenté comme le futur chancelier. Les chrétiens-démocrates subissent une défaite historique et perdent plus de 8 points par rapport à leur score médiocre de 2017. Nous ne pouvons pas être satisfaits de ce résultat, a estimé le candidat des conservateurs Armin Laschet aux côtés d'Angela Merkel. Il entend bien cependant tout faire pour gouverner son pays. Sociaux et chrétiens-démocrates peuvent conclure une coalition avec les Verts et les Libéraux. Les négociations commenceront rapidement, mais pourraient être longues. Les écologistes enregistrent un score historique à une élection nationale, mais bien en deçà de leurs espoirs du printemps. « Nous voulions gagner la chancellerie, malheureusement cela n'a pas été possible », a déclaré la tête de file du parti Annalena Baerbock. Mais les Verts ont de bonnes chances, comme les libéraux, de participer au futur gouvernement. Cette élection est une déception pour les extrêmes. Le parti nationaliste alternatif pour l'Allemagne recule. Le mouvement de gauche radical Die Linke perd près de la moitié de son électorat.
Et les négociations sont en cours à suivre dans nos journaux. Et je vous rappelle la pénurie d'essence en Angleterre, faute de livraison, faute de chauffeurs de camions citernes. Le gouvernement a débloqué quelques 5000 visas temporaires pour accueillir des chauffeurs routiers étrangers pour lesquels, depuis le Brexit, il est plus difficile de travailler en Grande-Bretagne. Partons aux États-Unis maintenant, où le Sénat a voulu en savoir plus sur la débâcle américaine en Afghanistan et le départ pour le moins précipité des derniers soldats de Kaboul en août dernier. À Washington, Guillaume Nodin.
Un succès extraordinaire, c'est comme ça que Joe Biden qualifiait l'opération d'évacuation menée à la fin du mois d'août à l'aéroport de Kaboul. Mais au-delà des éléments de langage, les sénateurs voulaient en savoir plus sur la manière dont le pays était tombé comme un fruit mûr dans les mains des talibans. Le ministre de la Défense, Lloyd Austin, a donc reconnu avoir été pris par surprise par la vitesse de l'effondrement de l'armée et du gouvernement afghan. Pour l'expliquer, il cite le niveau de corruption, l'incompétence des officiers les plus gradés, les changements fréquents dans le commandement de l'armée afghane ou encore l'effet de l'accord de Doha entre entre les États-Unis et les talibans sur le moral de cette armée. Le général Mark Milley, chef d'état-major, pointe le retrait des conseillers militaires américains qui a conduit à une mauvaise évaluation de la situation. Lui-même, ainsi que le général McKenzie, chef du commandement central, affirme aussi avoir conseillé avec d'autres hauts gradés au président Joe Biden de laisser environ 2500 hommes sur place au-delà du 31 août. Proposition non retenue par le commandant en chef. Plus gênant, dans un entretien télévisé peu après la mi-août, Joe Biden disait que cette option ne lui avait pas été soumise, une différence d'appréciation qui risque de faire beaucoup parler dans un pays très attaché à la vérité.
Amit Bozarslan, cette semaine, au sommet de Sotchi en Russie, Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan ont eu l'occasion de faire un point sur l'ensemble de leurs dossiers. Correspondance mercredi d'Anissa El-Jabri.
C'était utile et mouvementé. En creux, ce commentaire de Vladimir Poutine souligne à quel point, cette fois, trouver des compromis sur les dossiers compliqués qui séparent la Russie et la Turquie n'a pas été facile. Pas un mot officiel sur la situation en Syrie et singulièrement à Idlib, érigée en priorité par le Kremlin en début de semaine. Rien non plus sur l'Afghanistan. Avant la rencontre, la presse russe s'était en tout cas souvent montrée sévère avec la diplomatie turque, jugeant qu'elle ouvrait beaucoup de fronts sans pouvoir tous les tenir. Rien non plus sur un approfondissement de la relation de défense russo-turque. Une autre commande de S-400 est en attente d'officialisation, mais Moscou aimerait déjà passer la vitesse supérieure et vendre à la Turquie des avions de quatrième génération, les chasseurs Sukhoi Su-35. En attendant, Vladimir Poutine, qui sortait de 14 jours d'isolement, a donné ce conseil à son homologue devant les caméras: vaccinez-vous au Sputnik. Recep Tayyip Erdogan a répondu qu'il avait reçu une dose de Pfizer.
L'actualité internationale, ce sont aussi des combats acharnés autour de la ville stratégique de Marib, dernier bastion du pouvoir dans le nord du Yémen. Vous écoutez RFI, vous avez raison, suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de notre ami Amit Bozarslan, qui vient d'écrire « L'antidémocratie au XXIe siècle, Iran, Russie, Turquie », un livre publié au CNRS édition. Amit, vous voulez commenter tout ce que l'on vient d'entendre, en fait. D'abord, les élections en Allemagne et la formation en cours de cette coalition.
Deux remarques par rapport à cela. En premier lieu, on a l'impression que la société allemande, malgré sa singularité, comme les autres sociétés démocratiques européennes, est clivée, et comme si les lignes de partage dans le domaine politique n'étaient plus aussi prononcées comme cela était le cas, par exemple, dans les années 60-70. Une deuxième remarque, je crois que Angela Merkel a été une grande chancelière dans le contexte allemand, et en même temps, elle était aussi un facteur de freinage à l'échelle européenne. Rappelons-nous la crise de 2008 en Grèce, alors que la Grèce aurait pu facilement être sauvée. La Grèce a passé quand même par une décennie extrêmement sombre parce qu'il y avait l'entêtement de Madame Merkel, ou tout simplement qu'elle a refusé de prendre une quelconque sanction à l'égard de Erdogan, qui la traitait des dizaines de fois de nazi. Et la deuxième remarque qu'on peut formuler, c'est la suivante. Est-ce que le nouveau gouvernement va pouvoir aller au-delà de ce facteur de freinage et donner un coup d'accélération à l'intégration interne européenne? L'Allemagne a été capable de faire cela dans les années 70. N'oublions pas qu'il y a eu quand même le pouvoir de Willy Brandt. Willy Brandt a coexisté en même temps avec le chancelier autrichien Bruno Kreisky et le premier ministre suédois Olof Palme. On a eu l'impression effectivement qu'il s'agissait d'une sorte de printemps de la social-démocratie en Europe durant cette décennie. Et mon espoir, c'est qu'effectivement, voilà, au-delà des élections, on va pouvoir envisager peut-être une décennie d'ouverture à l'échelle européenne et d'intégration accélérée en interne.
À suivre donc, Amit Bozarslan, l'audition des militaires américains au Congrès à propos de l'Afghanistan montre que la démocratie américaine est à l'œuvre déjà, et montre qu'il y a comme un couac, une différence d'appréciation entre l'exécutif et notamment le président et les militaires.
Je pense qu'il y a un effondrement moral. L'Amérique est effectivement aujourd'hui très très inquiète, non pas parce qu'on ferait face à une défaite militaire comme en 1975 au Vietnam, le contexte est très très différent, mais en même temps effectivement la quête de la vérité, mais surtout la quête de cohérence aussi, et la quête de ce sentiment d'avoir trahi les populations afghanes, la population afghane, la société afghane. Mais je crois qu'au-delà de cela, il faudrait se poser aussi la question: pourquoi l'Afghanistan n'a pas pu résister? Pourquoi la société afghane n'a pas pu résister? Et cela nous amène aussi peut-être à une perspective comparatiste. En 2012, Kidal et Tombouctou tombaient pratiquement sans résistance et sans intervention française. Sans doute, Bamako allait tomber.
On va en reparler tout à l'heure.
En 2014, la ville de Moussoul, 1 300 000 habitants avec 100 000 hommes armés en interne qui est tombée dans les mains de l'État islamique sans résister au-delà d'une ou deux minutes. Et aujourd'hui, c'est l'Afghanistan. Je crois que la vraie question qu'il faudra qu'on se pose, c'est pourquoi les sociétés sont incapables d'opposer une résistance. Et là, c'est quelque chose qu'on ne peut expliquer ni seulement par la corruption des militaires afghans, ni il y a quelque chose sans doute qui est beaucoup plus fondamental. Là, trois espaces géographiques, l'Afrique, l'Irak, la Mésopotamie et l'Afghanistan qui est l'Asie centrale. Le même phénomène qui se produit, et je crois qu'effectivement les sociétés musulmanes doivent d'abord se poser cette question, pourquoi la résistance n'est pas possible. Et puis il y a un deuxième phénomène qui me paraît aussi de plus en plus important, et l'évolution, les événements de dernières semaines le montrent. Le Moyen-Orient, dans le sens large du terme, a toujours l'impression d'être le cœur stratégique du monde, ce qui n'est plus de tout le cas. C'est une blessure narcissique en quelque sorte, autant que stratégique, mais je crois qu'effectivement, mis à part deux ou trois enjeux comme Israël, ou l'endiguement de l'islamisme radical djihadiste, ou la protection ou les négociations avec l'Iran. Aujourd'hui, je crois que le Moyen-Orient est en perte d'importance stratégique. Le cœur stratégique du monde se déplace vers quelque part ailleurs. C'est très clairement l'Asie, c'est très clairement en rapport avec la Chine. Et je crois qu'effectivement, le départ des Américains de l'Afghanistan montre une fois de plus que, l'enjeu principal pour la Maison-Blanche ou le Pentagone ou le département d'État n'est plus du tout le Moyen-Orient dans le sens où le Moyen-Orient élargi jusqu'à l'Afghanistan ou jusqu'au Pakistan.
Amit Bozarslan, parlons maintenant de deux pays qui sont au cœur de votre livre, la Russie et la Turquie. Les présidents Erdogan et Poutine se sont donc rencontrés cette semaine à Sochi. Ça tombe bien puisque vous êtes là et que nous sommes au cœur de l'actualité. Moi j'ai noté que la Turquie, qui est membre important de l'OTAN, veut développer sa coopération militaire avec la Russie. Étrange situation, non ?
Étrange situation, d'autant plus qu'il y a 5 ou 6 ans, en 2015, on pensait que les deux pays étaient à deux doigts de la guerre. La Turquie avait abattu un chasseur russe qui avait violé son espace aérien seulement pendant quelques secondes. Et puis, on a vu effectivement un spectaculaire rapprochement par la suite, mais un spectaculaire rapprochement qui me fait toujours penser à ce qu'il disait la Boétie. La Boétie disait que les méchants entre eux ne pouvaient pas devenir des amis, ils pouvaient tout juste devenir des complices.
Et ben voilà.
Voilà. Et aujourd'hui, on a vraiment une complicité. Et c'est parce qu'il y a eu cette complicité que la Russie a pu transformer la ville de Alep en un cimetière à ciel ouvert. Et la Russie et la Turquie a pu intervenir dans la ville de Afrin, qui était une ville kurde, qui est aujourd'hui le siège, le théâtre d'un nettoyage ethnique à très grande échelle. Donc je crois qu'effectivement, quand je parlais tout à l'heure de ce sentiment profondément anti-occidental, qui règne dans les deux pays, explique très largement leur rapprochement. Mais ce rapprochement n'écarte pas du tout des petits meurtres entre amis. Votre correspondant a effectivement parlé de la ville de la province d'Idlib, qui est devenue de fait le plus grand djihadistan du monde, avec 3 millions d'habitants, mais qui est contrôlé en grande partie par Al-Qaïda. Et on sait qu'effectivement la Russie, depuis 2 ou 3 mois, attaque les forces djihadistes, mais aussi les forces turques. Il y a énormément de morts, pratiquement quotidiennement, et la Turquie n'a pas d'autre choix que d'avaler la couleuvre parce que effectivement les rapports avec les Américains ne sont pas au beau fixe. Il y a une crise structurelle avec la Maison Blanche, et donc il y a ce rapprochement. Et du coup, un pays de membre de l'OTAN, voire la deuxième armée de l'OTAN, qui devient de plus en plus dépendante stratégiquement, mais aussi pour son armement, de la Russie.
Un mot sur les Kurdes, c'est un sujet, une région du monde que vous connaissez bien, que vous étudiez, Amit Bozarslan. On peut dire que face à eux, face aux Kurdes, les démocraties occidentales n'ont pas été très courageuses. J'emploie un euphémisme.
N'ont pas été très courageuses. Au contraire, je pense qu'effectivement sous Trump, tout en mettant de la pression sur la Turquie pour qu'elle n'aille pas trop loin en Syrie, a abandonné une partie de Rojava, ce qu'on appelle le Rojava, le Kurdistan syrien, aux forces militaires turques. Et je crois que de ce point de vue-là, effectivement, ni l'Union européenne dans sa globalité, ni les États-Unis n'ont pas montré de signe de de courage. Et là, je crois qu'on peut vraiment comparer la situation à ce qui s'est passé en Espagne entre 1936 et 39. Le fait qu'on a abandonné la cause démocratique et la République espagnole, et on a autorisé Hitler et Mussolini de détruire cette République, représentait quand même une faillite morale pour l'Occident à l'époque, pour les démocraties, et cela s'est payé par la suite à Munich et à Vichy.
Et cela, Poutine et Erdogan l'ont remarqué, cette faiblesse occidentale, hein, évidemment.
L'ont parfaitement remarqué. N'oublions pas qu'en 2013, Obama avait expliqué que l'usage des armes chimiques constituait sa ligne rouge.
La fameuse ligne rouge.
Voilà, les armes chimiques ont été utilisées, les Américains n'ont rien fait. Et tout de suite après, le discours de Poutine était « les Occidentaux ont perdu leur honneur et leur virilité ». Et le résultat immédiat, c'était l'Ukraine. L'occupation de Crimée et par la suite d'une partie de l'Ukraine de l'Est par les forces russes. Il y a un rapport, mais vraiment de causalité, et ce rapport de causalité a été maintes fois expliqué, maintes fois rappelé par Poutine. Les Occidentaux ont perdu leur honneur et leur virilité. N'oublions pas que ces régimes-là ne pensent le monde, la société qui, à travers l'activité de guerre, cette activité de guerre est associée à la virilité. Ce sont des régimes très sexistes, très patriarcaux, tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc, du coup, je crois que de ce point de vue-là, Poutine n'a fait aucun mystère. Erdogan n'a fait aucun mystère non plus. Et quand vous prenez le discours de l'ayatollah Khamenei, qui est le guide suprême de l'Iran, lui rappelle également et constamment cette notion de virilité et que les Occidentaux ont perdu leur honneur et leur courage.
Une semaine d'actualité.
Et nous allons parler, Amit, de l'actualité française de ces derniers jours, en tout cas des grands titres, avec d'abord l'augmentation importante, pour le moins, du prix de l'énergie, du gaz notamment, qui pénalise des millions de personnes et qui est devenue une vraie question politique. Alexis Bédu.
C'est une hausse historique sur le marché mondial qui se répercute sur les ménages. Explication limpide de la Commission de régulation de l'énergie. L'incapacité des producteurs russes et norvégiens à amplifier leurs livraisons, les stocks très bas et la forte demande liée à la reprise économique, autant de facteurs qui provoquent une augmentation des cours du gaz. Hors taxe, la hausse est de près de 14% en France. Ces tarifs révisés chaque mois avaient déjà augmenté tout l'été, plus 25% en cumulant les hausses des trois derniers mois. L'inquiétude sur le pouvoir d'achat des Français grandit. 3 millions de ménages sont concernés et ces factures de gaz particulièrement élevées devraient perdurer tout l'hiver avant de baisser au printemps prochain. La création d'un chèque énergie exceptionnel de 100 euros pour les plus pauvres a été annoncée par le gouvernement, mais suffira-t-elle alors que la facture d'électricité devrait-elle aussi bondir en début d'année prochaine ?
Et le Premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi un bouclier tarifaire, c'est ce qu'il appelle un bouclier tarifaire, avec le blocage du tarif réglementé du gaz jusqu'en avril et la limitation de la hausse de l'électricité face à la flambée des prix de l'énergie. C'est Yannick Jadot qui représentera les écologistes à la prochaine élection présidentielle. Il est arrivé en tête de la primaire organisée par ce mouvement devant Sandrine Rousseau, mais le résultat est serré, Aurélien Devernois.
Ce militant écologiste a beau donner de la voix pour embellir l'instant, la poignée de main entre les deux finalistes de la primaire est aussi brève que glaciale. Mais Yannick Jadot, en bon vainqueur, préfère relativiser.
Ah, vous savez, ça fait un mois et demi qu'on se voit beaucoup.
Après avoir tremblé jusqu'au bout, le voilà donc de nouveau candidat à la présidentielle avec un objectif aller chercher au-delà de l'électorat écologiste.
Notre socle aujourd'hui, c'est 122 670 personnes qui ont participé à la primaire et notre objectif c'est de gagner l'élection présidentielle. Donc vous voyez que c'est une belle phase de lancement.
Mais il va falloir faire plus car Yannick Jadot le sait, il ne fera pas le plein de votes chez les partisans de Sandrine Rousseau, pas assez radical à leur goût. François, supporter de la candidate déçue.
On va réfléchir à tête reposée pour savoir qu'est-ce qu'on va faire. Dans tous les cas, on ne fera pas obstruction.
Des dissensions qui ne plaisent évidemment pas au patron des Verts, Julien Bayou, et il estime que c'est à Yannick Jadot de faire l'effort.
La balle est dans le camp, évidemment, de Yannick Jadot. On doit organiser maintenant une campagne qui reflète les différents votes, qui reflète aussi les aspirations très fortes qu'a pu porter Sandrine Rousseau.
Un message pas vraiment entendu par le candidat. Lors de son discours de victoire, Yannick Jadot n'a quasiment pas abordé la question des discriminations, sujet de prédilection de Sandrine Rousseau.
Je serai le président du climat.
Sept jours en France.
Amit Bozarslan, nous allons parler des nouvelles tensions entre Paris et Alger. François Gouyette, l'ambassadeur de France en Algérie, a en effet été convoqué cette semaine par le ministère algérien des Affaires étrangères pour protester contre la décision de la France de réduire considérablement le nombre de visas accordés aux ressortissants algériens. Explication de Pierre Firsion.
Dans un communiqué, le ministère algérien des Affaires étrangères dit avoir notifié à l'ambassadeur de France une protestation formelle du gouvernement algérien. Paris avait annoncé mardi réduire le nombre de visas accordés aux pays du Maghreb en cause leur refus de délivrer les laissez-passer consulaires nécessaires au retour des immigrés refoulés de France. Selon le ministère français de l'Intérieur, l'Algérie n'en aurait délivré qu'une poignée entre janvier et juillet dernier, alors que plus de 7700 arrêtés de reconduite à la frontière avaient été prononcés. Le ministère algérien des Affaires étrangères estime que cette décision comporte, je cite, « l'anomalie rédhibitoire d'avoir fait l'objet d'un tapage médiatique générateur de confusion et d'ambiguïté quant à ses motivations et à son champ d'application ». Fin de citation. Cet épisode risque de tendre un peu plus les relations entre les deux pays. La question mémorielle fait déjà régulièrement monter la tension entre Paris et Alger. En juin, Abdelmadjid Tebboune avait une nouvelle fois réclamé une reconnaissance par la France des faits survenus pendant la colonisation. Si Emmanuel Macron a exclu tout acte de repentance, le président français a engagé ces derniers mois une série d'actes symboliques pour réconcilier les mémoires. Pas sûr toutefois que la récente demande de pardon présentée au Harki ait été bien perçue par Alger.
Maxime Blasco était devenu un héros bien avant sa mort au Mali il y a un peu plus d'une semaine. Maintenant, mercredi dans la cour des Invalides à Paris, Emmanuel Macron a rendu au 52e soldat mort au combat au Sahel depuis 2013, au nom de la France, un hommage national, Franck Alexandre.
Avant que le cercueil drapé de tricolore entre dans la cour d'honneur des Invalides, le cortège funéraire, comme le veut la tradition, a franchi le pont Alexandre III, où se réunissent les Français, désireux de rendre hommage aux soldats tombés en opération, hommage de la nation pour une disparition qui a provoqué un vif émoi dans la sphère militaire. C'était un soldat au parcours opérationnel exceptionnel, insiste l'état-major des armées. En 2019, au Mali déjà, Maxime Blasco avait sauvé la vie à deux de ses camarades. Après le crash de leur hélicoptère, grièvement blessé lui-même dans ce crash, il avait réussi à les extraire de la carlingue avant de les installer de façon un peu artisanale sur les patins d'un hélicoptère Tigre. Un héros, disait-il avec modestie, c'est quelqu'un qui fait un acte contre nature pour une juste cause. Maxime Blasco, dit Max, était une figure des commandos de montagne du 7e bataillon de chasseurs alpins de Vars, marié, père d'un enfant. Il est tombé au combat au cours de sa 6e opération extérieure à l'âge de 34 ans.
Et nous reparlerons du Mali tout à l'heure. J'ajoute dans l'actualité française que Nicolas Sarkozy, l'ancien président, a été condamné jeudi à 1 an de prison ferme pour le financement illégal de sa campagne présidentielle perdue de 2012 dans le dossier Big Malion. Il va faire appel. Suite d'une semaine d'actualité en compagnie d'Amit Bozarslan. Nous reparlerons tout à l'heure du Mali dans un instant dans la partie africaine de l'émission. Je vous tenais à commenter cet événement, enfin l'évolution de la situation au Mali. Je voudrais revenir à votre livre et sur un des aspects qui caractérise ces trois régimes iraniens, russes et turcs, cet appel systématique à l'histoire, à l'héritage, alors qu'en Occident, pour parler de façon globale, cette histoire a tendance à passer au second plan.
Absolument. Appel à l'histoire. Alors, effectivement, on a l'impression qu'il s'agit d'un régime qui ont tous les trois une violente nostalgie d'empire. Une violente nostalgie de grandeur, une violente nostalgie de mission historique. Et cette nostalgie se traduit par la demande à la fois d'amour et de force. On va utiliser la force pour obtenir l'amour que vous nous refusez. L'amour que vous nous refusez, c'est par rapport aux Arméniens, par rapport aux Kurdes, par rapport aux Grecs. Hein. Donc voilà, les composantes mineures d'Empire, les Géorgiennes, l'Arménie ex-soviétique, etc. Et de l'autre côté, effectivement, l'usage de la force, parce que ces régimes-là ne sont absolument pas en mesure de déclencher une guerre avec l'Occident, avec les États-Unis ou avec l'Europe. Donc la guerre se fait à la proximité, à la périphérie. Et ce qui est extraordinaire aussi de voir, c'est que la lecture qu'il propose de l'histoire est une lecture totalement erronée. L'Empire ottoman a été à deux reprises sauvé par la France et l'Angleterre lors de la guerre de Crimée de 1853-1856 et lors de la guerre russo-ottoman de 1876-77, sans l'intervention de l'Occident, en tout cas de la France ou de l'Angleterre, l'Empire ottoman sans doute allait s'effondrer. De la même manière, le fait que l'Occident a toujours été l'ennemi de la Russie est une contre-vérité absolue. On sait qu'au contraire, pendant la Première Guerre mondiale, mais aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors que Staline avait signé un pacte de non-agression avec Hitler, la Russie a été l'allié de l'Occident. La Turquie l'Empire ottoman est entré dans la Première Guerre mondiale de son propre chef, sans aucune provocation, ni de la part de l'Angleterre, ni de la part de la France, ni même de la part de la Russie, qui tenait absolument à pacifier ses rapports. Donc on a l'impression qu'effectivement, il y a toujours ce rappel de l'histoire, mais c'est une histoire qui est absolument falsifiée, c'est une histoire qui n'a plus aucune quête de vérité, mais l'idée que effectivement aujourd'hui la nation doit prendre sa revanche sur l'Occident, sur le passé, mais aussi sur l'Occident, devient effectivement quelque chose qui est très répandu, alors que voilà, la connaissance historique qui est produite, c'est une connaissance clairement falsifiée.
Afin de masquer, Amit, des difficultés d'ordre économique et social.
Des difficultés d'ordre économique et social, des difficultés aussi qui sont liées à l'histoire propre, parce que l'occidentalisation qui est tant décriée aujourd'hui n'a pas été exclusivement imposé. Certes, il y a eu un Occident impérialiste, certes, il y a eu la question de l'endettement de ces régimes, mais l'occidentalisation, le mouvement d'occidentalisation qui a commencé dans les trois pays, quelque part au milieu du 19e siècle, était aussi un mouvement natif, un mouvement effectivement qui venait de l'intérieur. N'oublions pas que lorsque ces trois régimes sont entrés dans le processus d'occidentalisation, ça veut dire en gros de reproduire ce qui existait en France. Hein. Donc voilà, la centralisation, la création des préfectures, la création effectivement d'un système militaire de recrutement obligatoire, d'un nouveau système fiscal, etc. Tout ceci était devenu inévitable parce que les anciens régimes s'étaient effondrés. Donc cette occidentalisation n'a pas été imposée à ces pays-là et il n'y a eu aucune, disons, volonté de détruire ontologiquement ces entités qui seraient irréductibles. Là aussi, on voit combien effectivement ces régimes-là ne sont pas en paix avec leur propre histoire, mais sur cela, effectivement, s'ajoutent aussi les questions économiques. Les trois régimes sont aujourd'hui, peut-être la Russie un peu moins comparée, il y a quelques années, les trois régimes sont des régimes aux abois et effectivement dire que c'est le complot occidental, le lobby juif, la diaspora arménienne ou les Bahaïs iraniens qui sont derrière la souffrance de la nation, de son effondrement économique, est très très facile. Donc dire qu'effectivement, voilà, c'est Sarkozy ou le premier ministre néerlandais qui complote depuis Paris ou depuis Rotterdam contre notre patrie, tout ceci effectivement est très facile. Ça peut être mobilisateur. Aujourd'hui, je crois qu'effectivement, ces trois régimes n'arrivent plus du tout à mobiliser leur opinion publique à partir de ce registre de l'étranger. Mais vous avez tout à fait raison. Effectivement, je crois qu'il y a aussi cette manipulation. Voilà, pour cacher effectivement les difficultés internes, on accuse l'Occident.
Avec une notion de l'État qui est assez particulière, vous appelez ça la notion d'État cartel.
Oui. La notion d'État cartel, ça veut dire qu'effectivement, ces régimes-là sont structurés autour d'un nom, Khamenei dans le cas de l'Iran, Erdogan et sa famille dans le cas de la Turquie, et Poutine dans le cas de la Russie. Mais au-delà de cela, il y a effectivement un régime qui est composé des services de renseignement. Il y a une multitude de services de renseignement. Il y a ce qu'on appelle la nouvelle noblesse d'État dans le cas de la Russie qui vient de complexes militaires. Militaro-industriel, il y a l'armée, il y a une partie de l'extrême droite dans les trois pays d'une manière ou d'une autre qui sont intégrés. Donc on a l'impression effectivement que la vérité du pouvoir ne se trouve pas du tout dans l'institutionnalité du pouvoir, mais dans la composition de ce cartel qui est soustraite à toute comptabilité en quelque sorte politique parlementaire.
Et il y a une chose importante avant que nous parlions de l'actualité africaine, Hamid Bozarslan, c'est que ce modèle entre guillemets russe, je dis modèle entre guillemets, et l'est pour un certain nombre d'hommes politiques en Occident. En Europe, singulièrement.
C'est qui est très, très impressionnant, c'est qui est vraiment désolant aussi. Et c'est là qu'on voit qu'il y a effectivement une sorte de souverainisme, aussi bien de droite radicale que de gauche radicale, trouve dans Poutine l'homme qui a préservé à la fois, qui a à la fois préservé la nation et résisté contre ce qu'ils appellent la civilisation atlantiste. La civilisation atlantiste, finalement, c'est les deux rives de l'océan Atlantique. Donc, effectivement, il y a cette admiration de Poutine qu'on peut observer, y compris, par exemple, chez quelqu'un comme Mélenchon. On sait que Moscou est devenu un peu la banque centrale de l'ensemble des mouvements de droite radicale à travers extrême droite à travers l'Europe, et même une historienne aussi respectable que Hélène Carrère-Dancaus ne cache pas son admiration pour Poutine.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, vous la connaissez par cœur maintenant. Vous pouvez aussi nous écrire sur Facebook. Merci en tout cas pour vos messages. Et je salue quelques auditeurs qui nous écoutent en Afrique, sur le continent africain, comme chaque samedi. Bonjour aujourd'hui à deux auditrices. Pour commencer, Salimata qui nous écoute à Dakar et Nadia Dorine à Cotonou. Un salut à Tsiedi à Libreville, à Didier et Etelé à Kinshasa. Un salut également à Rabé à N'Djamena, Terna à Conakry, à Julien Damien à Yaoundé, à Aladin à Bafoussam, toujours au Cameroun, et enfin un salut à Olivier à Lomé.
Une semaine d'actualité.
Et nous allons partir pour l'Afrique, Amit Bozarslan, au Rwanda d'abord. Une youtubeuse très critique du gouvernement de Paul Kagame a été condamnée à 15 ans de prison. Yvonne Idamange avait été arrêtée en février dernier après avoir fait le buzz, comme on dit aujourd'hui, sur YouTube, avec plusieurs vidéos très controversées. Dans un pays où la liberté d'expression est pour le moins limitée, elle était accusée d'incitation à l'insurrection, de publication de fausses rumeurs et de dénigrement des sites de mémoire du génocide. Laure Broulard à Kigali.
15 ans de prison et près de 2000 euros d'amende. Yvonne Idamange a été reconnue coupable des 6 charges retenues contre elle. Selon les juges, ces vidéos auraient eu pour but de provoquer des troubles à l'ordre public. Sur sa chaîne YouTube, Yvonne Idamange avait dénoncé les mesures de lutte contre le coronavirus au Rwanda et leurs conséquences économiques sur la population. Se présentant comme une rescapée du génocide des Tutsis, elle avait également critiqué la politique mémorielle du gouvernement, l'accusant de monnayer les mémoriaux du génocide. Elle avait ensuite appelé les généraux rwandais à libérer le pays avant d'annoncer la mort de Paul Kagame, une fausse rumeur circulant régulièrement sur les réseaux sociaux. Lors de son arrestation, la police avait indiqué que ces vidéos mélangeaient la politique, la folie et les propos criminels. Ce procès semble destiné à intimider toute personne envisageant d'exprimer des opinions critiques ou controversées, assure Lewis Mudge, directeur de Human Rights Watch pour l'Afrique centrale. Selon l'ONG, les autorités rwandaises ont menacé, arrêté ou lancé des poursuites contre au moins 8 personnes commentant l'actualité sur les réseaux sociaux ces 2 dernières années.
Notez aussi dans l'actualité en Afrique qu'une commission indépendante a rendu public mardi les résultats de son rapport d'enquête concernant des cas de viol et d'exploitation sexuelle dans le cadre de la riposte à l'épidémie d'Ebola qui avait sévi dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette commission a identifié au moins 75 victimes entre août 2018 et juin 2020. 21 des auteurs travaillaient pour l'OMS. Partons pour la Guinée maintenant, qui célèbre aujourd'hui même le 63e anniversaire de son indépendance. C'était le 2 octobre 1958. La junte a dévoilé la charte de la transition au début de la semaine. Le texte a été lu dans le détail à la télévision nationale lundi. Et cette charte, qui s'appliquera jusqu'à l'instauration d'une nouvelle constitution, détermine le cadre juridique de la période de transition dont la durée n'a toujours pas été fixée à Conakry, Sidi Yansané.
C'est avec 1h30 de retard que le journal de la RTG, habituel relais des communiqués d'État, s'ouvre. La présentatrice Adèle Camara entame le JT par la lecture intégrale de la charte de la transition définie par la junte. Le texte dévoile les institutions qui accompagneront la transition, à savoir le CNRD, son président, un gouvernement et un conseil national de transition qui fera office de parlement. Ce dernier, composé de 81 membres, va des partis politiques aux forces vives de la nation. Après avoir précisé les missions et devoirs des différents organes, le document impose un minimum de 30% de femmes dans chaque groupe nommé dans ce CNT. Mais une mesure attire particulièrement l'attention. Toutes les personnes participant à la transition sont interdites de candidature aux prochaines élections nationales et locales, à commencer par le meneur des putschistes et actuel chef de l'État, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya. Une disposition n'étant susceptible d'aucune révision, souligne le texte. Comme promis par le CNRD, les membres du gouvernement et responsables d'institutions en vigueur sous le régime du président déchu Alpha Condé sont exclus de la transition, dont la durée sera fixée par le CNT et les forces vives de la nation.
Et Mamadi Doumbouya est devenu hier officiellement président de la République de Guinée. Le putschiste qui a renversé Alpha Condé il y a un mois a prêté serment à Conakry devant la Cour suprême.
Sept jours en Afrique.
Avant de vous retrouver, Amit Bozarslan, parlons du Mali. Maintenant, les propos de Choguel Maïga samedi dernier à la tribune de l'ONU ont provoqué de vives réactions pour le moins des autorités françaises. Le Premier ministre malien a accusé la France d'abandon. Il a ajouté dimanche sur RFI avoir appris par la presse la fin supposée de l'opération Barkhane, Pierre Firsion, lundi.
Le Quai d'Orsay est d'abord monté hier après-midi au créneau pour rejeter les accusations formulées par le Premier ministre malien. La transformation de notre dispositif militaire au Sahel ne constitue ni un départ, ni une décision unilatérale, et il est faux d'affirmer le contraire, déclarait la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, avant que Florence Parly ne surenchérisse, quand on a 5000 soldats et qu'on se désengage de 3 ans prise, et qu'on a l'intention d'en laisser encore plusieurs milliers, ce n'est pas l'attitude normale d'un pays qui a l'intention de s'en aller, argumentait la ministre française des Armées. Une ministre visiblement excédée par les accusations d'abandon du Mali, accusation formulée samedi à la tribune de l'ONU par Choguel Maïga. C'est beaucoup d'hypocrisie, c'est beaucoup de mauvaise foi, beaucoup d'indécence, ajoutait Florence Parly, surtout parce que ces propos ont été tenus le samedi 25 septembre. Or, le vendredi 24 septembre, un 52e militaire français a donné sa vie pour combattre le terrorisme au Sahel. Fin de citation. Paris se défend donc de tout abandon et assure que l'évolution de son dispositif militaire s'est faite en concertation avec ses partenaires sahéliens depuis le sommet de Pau en janvier 2021. La France, qui martèle en outre depuis plusieurs jours que l'arrivée du groupe russe Wagner dans le pays serait incompatible avec sa présence militaire et celle d'autres pays.
Alors ça, c'était au début de la semaine. Écoutez, cette fois Emmanuel Macron, jeudi, les propos du président français sont clairs.
J'ai été choqué. Ces propos sont inacceptables. Je rappelle que le Premier ministre malien est l'enfant de deux coups d'État, si je puis dire. Puisqu'il y a eu un coup d'État en août 2020 et un coup d'État dans le coup d'État. Donc la légitimité du gouvernement actuel est démocratiquement nulle. Mais alors que hier nous avons présidé à l'hommage national au sergent Blasco, qu'aujourd'hui il est enterré parmi les siens à Vars, c'est inadmissible ce qu'a dit le Premier ministre malien. C'est une honte. C'est une honte. Et ça déshonore ce qui n'est même pas un gouvernement, les gens qui sont aujourd'hui à la tête du Mali. Et je sais que le peuple malien ne pense pas ça. Parce que les Maliens sont les premières victimes du terrorisme djihadiste. Et je sais qu'aujourd'hui, tant et tant de Maliennes et de Maliens pensent à leurs enfants qui sont morts de ces terroristes. Mais ils pensent aussi aux familles de soldats qui ont perdu un fils à des milliers de kilomètres d'eux pour aider à sauver le Mali. Et qu'il y ait un tel mépris des dirigeants maliens actuels à l'égard de nos soldats, des vies qui ont été laissées. C'est inadmissible.
Propos recueillis par Valérie Gasse et nos confrères de l'AFP à retenir également cette semaine qu'une femme, Najla Boudène, a été chargée mercredi de former un nouveau gouvernement en Tunisie. Une première dans l'histoire du pays, mais ses prérogatives seront très limitées après que le président Kaïs Saïd s'est arrogé les pleins pouvoirs. Suite et fin de cette édition d'une semaine d'actualité. Vous brûlez, Amit, de nous parler de votre réaction à propos de ce qui se passe au Mali.
Oui, au Mali, je crois qu'il y a énormément de choses à dire. Personnellement, en 2012, j'étais contre l'intervention française, mais il fallait que quelqu'un intervienne et il n'y avait personne. il n'y avait pas l'Union européenne.
En 2013.
Surtout, voilà, oui. 2013. Et surtout en Afrique, il n'y avait aucune force capable d'intervenir. Et sans l'intervention française, Bamako allait tomber sans doute dans les semaines qui suivent. Donc 10 ans après, on se rend compte d'abord, avant toute chose, que l'État malien ne s'est pas constitué, qu'une armée malienne n'existe pas. Et que le gouvernement malien qui existe rassemble un peu à la République très très démocratique du Gondwana que présente votre collègue Maman brillamment aujourd'hui avec son deuxième fondateur, président fondateur, son excellence, qui effectivement donne des leçons. Je crois que la première chose à se dire, effectivement, voilà, pourquoi l'État malien n'a pas pu se reconstituer, pourquoi une société malienne résistante n'a pas pu se constituer. Et la deuxième chose à rappeler, c'est effectivement la compagnie Wagner. La compagnie Wagner porte son nom, Wagner, parce que son fondateur est un admirateur de Wagner, mais aussi du régime de l'Allemagne nazie, nous l'oublions pas. Cette compagnie n'est pas connue pour avoir respecté les droits humains.
En Centrafrique, par exemple.
En Centrafrique, mais aussi en Ukraine et en Syrie. Les Syriens savent effectivement de quoi cette compagnie est capable de faire. Cette compagnie, demain, va intervenir, mais va intervenir sans faire la distinction entre les combattants militaires et la population civile. Et on a de plus en plus l'impression que l'État malien, le gouvernement malien, va devenir, lui, une force supplétive d'une compagnie privée de sécurité russe qui a très clairement des ambitions hégémoniques et qui a très clairement une idéologie. Et cette idéologie, une fois de plus, c'est une idéologie de droite radicale. Donc là, il y a quelque chose d'extrêmement inquiétant. Et j'espère que bon, l'exemple malien ne va pas se propager dans le reste de l'Afrique. Mais on a l'impression qu'effectivement, pas mal d'États aujourd'hui en Afrique se trouvent plus ou moins dans la même situation et accusent la France, effectivement, d'abandonner la cause, alors que sans la présence française, sans doute, je crois qu'au cours des 8 dernières années, le Mali n'aurait pas survécu. C'est quand même extrêmement problématique.
Quel avenir pour les démocraties, Hamid Bouzarslan, face à ces antidémocraties que vous analysez dans ce livre, l'Iran, la Russie et la Turquie? Vous citez Raymond Aron, qui parlait de réformes impossibles dans un autre contexte, réformes impossibles, révolution improbable. C'est le cas pour ces pays?
En tout cas, pour ces pays-là, dans l'immédiat. Dans la conclusion de cet ouvrage, je précise bien qu'effectivement, ces régimes sont des régimes aux abois. Ces régimes fragmentent leur temps. Ces régimes provoquent des crises incessantes à travers lesquelles ils se survivent. Ces régimes ont constamment recours au chantage, à l'unité nationale, à la grandeur nationale, à la menace imminente qui détruirait la nation. Donc, du coup, effectivement, toute opposition est assimilée à la trahison. Jusqu'à maintenant, ils ont réussi. Mais en même temps, est-ce que cela va réussir demain? C'est extrêmement difficile à répondre à cette question. La réforme me paraît absolument impossible. On l'a vu. La réforme est impossible parce qu'en Iran, le régime de la présidence Khatami dans les années 97 à 2005 a essayé de réformer le régime, mais sans s'attaquer ni aux prérogatives du guide suprême, ni au pastaran, donc le gardien de la révolution, qui est une force milicienne qui a pris le contrôle du pays. On sait qu'effectivement, en Turquie, il y a encore 15 ans, Erdogan se présentait comme un musulman démocrate réformateur. On a vu le résultat. Et Poutine, en 1999, s'est présenté aussi comme l'homme de la raison. Et il a commencé par la guerre de Tchétchénie. Il a dévasté la Tchétchénie. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'effectivement, la réforme est impossible. Et en même temps, il se peut qu'effectivement, demain, les sociétés acquiert assez de courage, assez de moyens de résistance et de révolte pour pouvoir changer la donne. Mais pour le moment, on ne peut faire aucun pronostic.
Merci Hamid Bouzarslan. En tout cas, je recommande votre essai qui s'intitule donc L'antidémocratie au XXIe siècle, Iran, Russie, Turquie, un essai publié au CNRS édition.
Merci à vous.
Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Nous vous donnons rendez-vous demain dimanche, comme d'habitude, pour un nouveau numéro du magazine Idées. Et nous voyagerons en compagnie de l'essayiste philosophe Gaspard Koenig, qui a traversé la France, l'Allemagne et l'Italie à cheval, sur sa jument, sur les traces de Montaigne. C'est passionnant, vous allez le voir. Idées demain dimanche à 15h10 temps universel, 16h10 heure française. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau point sur l'actualité du monde sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI.